Doc.
Oui, bonjour.
Anthony Bélanger. Oui. Ah, on part en Grande-Bretagne alors pour un casse-tête royal.
Eh oui, je ne pouvais pas terminer la semaine sans vous parler des fiançailles de l'année. Vous savez, de Meghan et Harry, évidemment, on ne parle que de ça de part et d'autre de l'Atlantique. Une remarque d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, j'expliquais chez Fabienne Synthèse que le gouvernement britannique instrumentalisait toujours les mariages royaux. Eh ben, je croyais pas si bien dire. Les deux tourtereaux s'étaient fiancés depuis plusieurs semaines. Or, l'annonce a été faite il y a deux jours. Et que s'est-il passé hier? Alors que tous les tabloïds étaient occupés à parler chiffons, à glousser sur la bague ou sur le jour du mariage, eh bien on apprenait que la facture du Brexit pour les Britanniques allait grimper jusqu'à 60 milliards d'euros et c'est passé comme une lettre à la poste royale.
Eh ben voyons, comme vous avez l'esprit mal tourné, Anthony, vous avez repéré d'autres ennuis qui attendent la couronne britannique.
Et ça c'est la presse états-unienne qui a levé un drôle de lièvre. Lorsque Meghan deviendra princesse d'Angleterre, elle prendra la nationalité britannique mais conservera aussi sa nationalité américaine. Or, les États-Unis ont une particularité fiscale qu'ils sont seuls au monde à appliquer avec l'Érythrée, obliger leurs nationaux à payer des impôts sur le revenu aux États-Unis, quel que soit leur pays de résidence. Ça date de 1862, de la guerre de sécession. À l'époque, il s'agissait de punir les Américains qui fuyaient la conscription en se réfugiant à l'étranger. En clair, au-delà de 150 000 dollars de revenus, Miss Markle devra remplir, princesse ou non, le document 8938 auprès de l'administration fiscale américaine.
Est-ce que ça veut dire que les États-Unis sauront tout des finances royales?
Eh ben, c'est exactement le problème. Et c'est même très shocking.
Ah ouais.
D'une part, parce que ça signifie qu'une puissance étrangère aura un droit de regard sur les revenus de Buckingham Palace. D'autre part, ça signifie, ça multiplie les chances d'une fuite vers la presse, c'est-à-dire le cauchemar. D'autant que la famille royale est célèbre pour l'opacité de ses comptes. Personne ne sait exactement jusqu'à quel point la famille royale est riche. Même la reine, a-t-on l'habitude de dire en Grande-Bretagne, s'est contrée sans l'IRS, vous savez, le fisc états-unien.
Allez, on part maintenant pour la Terre Sainte et le tombeau du Christ.
Ah, vous vous souvenez peut-être, effectivement, on est en dehors de sainteté aujourd'hui, vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, une restauration complète de la tombe du Christ à Jérusalem a été conduite. On a ouvert le tombeau et ouf, personne à l'intérieur, ce qui est logique hein, d'ailleurs, puisque pour les chrétiens, je le rappelle, le Christ est ressuscité. Reste qu'on a prélevé des échantillons et qu'ils ont été analysés, ces échantillons.
Alors,
ça fait rire.
Les
premiers résultats sont revenus notamment sur un point essentiel, hein, la datation du mortier utilisé pour consolider la tombe, eh bien, ce mortier est romain et date bien du 4e siècle. Encore une fois, c'est pas la preuve que Jésus a séjourné même quelques jours dans la tombe. Hein. Par contre, c'est bien la preuve que les récits historiques disaient vrai. Au 4e siècle, l'empereur romain Constantin a bien bâti un édifice à cet emplacement. Et c'est une sorte de cadeau de Noël archéologique pour les églises chrétiennes du monde entier. Le Christ est toujours aussi élusif historiquement, mais on peut au moins corroborer que le lieu repéré par Constantin et sa maman, Sainte Hélène, en 326, eh bien, le Saint-Sépulcre actuel.
Ainsi soit-il. Merci Anthony Bélanger.
Merci à vous.